Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur le Conseil constitutionnel dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, à l'occasion de la loi sur la retraite, puisque ce Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du contenu. Alors, c'est quoi ce Conseil constitutionnel ? Eh bien, c'est une création relativement récente, puisque c'est en 1958 que De Gaulle a créé ce Conseil, puisqu'il avait quelques difficultés à avoir une majorité franche au Parlement. Ça nous rappelle quelque chose. Et en l'absence de majorité franche au Parlement, il a trouvé le moyen de rajouter en quelque sorte un étage supplémentaire pour vérifier que les lois seraient bien conformes à notre Constitution. Donc on voit déjà le gros prétexte. Et tous ces membres de ce Conseil ne sont pas, c'est la première originalité, des magistrats indépendants qui seraient chargés de vérifier cette constitutionnalité, mais sont en réalité des dirigeants politiques liés au pouvoir, et je vais le développer. Alors ils sont 9, ils sont désignés pour 9 ans, et ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Alors, 3 membres sur les 9 sont désignés par le président de la République, 3 sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Donc, si on regarde, 3 par le président de la République en marche aujourd'hui, Renaissance, 3 par le président de l'Assemblée nationale ou la présidente, même parti politique, et 3 par le président du Sénat qui, historiquement, est toujours dans la droite classique. Donc avec ce type de désignation, on retrouve les copains à recaser. Anciens ministres, il y en a 4 sur 9. Anciens chefs de cabinet des ministres en question. Et finalement, aucun sur les 9 n'est un juriste spécialisé en droit constitutionnel, et j'allais dire aussi, bien sûr, on s'en doutait un peu, personne parmi les 9 issu du monde ouvrier, employé ou autre. Absolument personne. Alors cela fait longtemps que plusieurs juristes, plusieurs partis politiques ou organisations diverses réclament depuis donc longtemps cette suppression de ce Conseil constitutionnel, car sur le fond, comment accepter qu'un organisme non élu ait le pouvoir de censurer les lois votées par le peuple, puisqu'elles sont censées être votées par les représentants du peuple au Parlement ? Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus sur ces sages, comme on les appelle, on verra s'ils sont sages, et m'intéresser à leur statut et à leur rémunération. Eh bien, pour leur rémunération, c'est bien compliqué parce qu'il n'y a rien de public. Il y a un calcul extrêmement savant. On sait seulement que, finalement, leur rémunération serait au-dessus de 15 000 euros par mois, à quoi s'ajoutent de confortables frais de déplacement pour une activité qui n'est pas une activité à temps plein. Moi, 15 000 euros par mois pour du temps partiel, je prends. Alors, si on regarde Alain Juppé, puisque c'est cumulable en plus cette indemnité, il touche, lui, déjà depuis l'âge de 57 ans, il a 77 ans aujourd'hui, une retraite de haut fonctionnaire de 3 800 euros. Donc, il a déjà ça. Et il a, en plus, une retraite de parlementaire de 6 200 euros. Et donc, le troisième étage, eh bien, le troisième étage, c'est celui que je viens de citer, la rémunération de 15 000 euros au minimum, puisqu'on n'a pas le chiffre exact, de 15 000 euros au minimum pour siéger au Conseil constitutionnel. Alors, bien sûr, c'est qu'un aspect du problème, mais tout de même. Alors, regardons de plus près maintenant qui siège aujourd'hui. Alors, je commencerai par les deux les plus connus, Et plus connu, c'est d'abord Laurent Fabius, qui d'ailleurs assure la présidence de ce conseil, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été désigné justement par le président de l'Assemblée nationale en 2016. Ça tourne un peu en boucle et il est connu pour être issu de la grande bourgeoisie, même s'il a été longtemps au PS. À l'époque, on disait à la droite du PS. Toujours est-il qu'il est issu d'une grande famille bourgeoise de Rouen. Il sera mouillé en ce qui le concerne, Fabius, c'est ce qui bloquera d'ailleurs son ascension politique. Il sera mouillé dans l'affaire du sang contaminé, sans être pour autant condamné. Alors, autre personnage connu, Alain Juppé, Premier ministre et auteur de la précédente réforme de 95, où il avait tenté à l'époque de supprimer les régimes spéciaux et il n'a pas pu le faire de par la mobilisation. Mais déjà à l'époque, en 95, Juppé voulait supprimer les régimes spéciaux. Il a été condamné à 14 mois de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, ce qui avait un peu plombé sa carrière. Il est, comme Fabius, un spécialiste des questions financières et il n'est nullement juriste. Mais bon, on n'est pas à ça près. Alors ensuite, d'autres moins connus, Véronique Balbec, désignée en 2022 par le président de l'Assemblée nationale. Elle était, il y a encore peu de temps, directrice du cabinet du ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui a, comme vous le savez, de multiples casseroles, notamment pour avoir fait pression sur des magistrats sur ses dossiers personnels qu'il avait quand il était avocat. Donc une gamelle pour Dupond-Moretti, et on ne nous fera pas croire que sa directrice de cabinet était pas dans le coup, Véronique Balbec, aujourd'hui donc au Conseil constitutionnel. Ensuite, on a François Sénère. Il a été désigné en 2022 par le président du Sénat. Il était directeur de cabinet du président du Sénat, donc ça tourne en boucle. Donc on peut en conclure qu'on est entre copains. François Pillet, lui, il a été désigné en 2019 par le président du Sénat également. C'est un ancien sénateur étiqueté UMP, puis étiqueté Les Républicains. C'est un avocat spécialiste en droit fiscal. Jacqueline Gourault, désignée par le président de la République en 2022, elle, vous en souvenez peut-être, elle était il y a encore peu ministre sous Macron et aussi occasionnellement, c'est une grande fortune. Elle a été UDF puis Modem, donc elle est dans la droite classique. Il y a aussi Corinne Luquiens, désignée en 2016 par le président de l'Assemblée nationale. Elle est classée en ce qui la concerne chez les Républicains. Nous avons Michel Pinault. Alors Michel Pinault, il a été désigné en 2016 par le président du Sénat. C'est l'homme de la haute finance. Il a été dirigeant chez AXA. Il a été dirigeant à l'UAP. Il a été dirigeant de la commission qui gère les conflits en matière de finances, de régulation, ça s'appelle. Et c'est un homme très intéressé, comme on s'en doute, par la retraite par capitalisation, puisque finalement cette retraite par capitalisation profiterait évidemment à des entreprises comme AXA. Alors bon, il est fils de général, donc tout le monde ne peut pas être fils de général. Peut-être que ça joue aussi dans son parcours et dans son positionnement. Nous avons Jacques Mézard, désigné en 2019 par le président de la République. Lui, c'est aussi un ancien ministre sous Macron. Il n'y a donc personne du monde ouvrier, comme je l'avais dit, mais rassurez-vous, la haute finance est très bien représentée. Donc le surnom repris dans les médias de Conseil des sages, pour moi, il va pas. Il est usurpé, c'est plutôt le Conseil des copains. Un seul exemple d'ailleurs pour le prouver, c'est sur l'adoption de cette loi. en réalité tout à fait irrespectueuse de la procédure légale. Je ne prendrai qu'un seul exemple, il y avait plusieurs arguments. Je vais n'en prendre qu'un seul. Comment un conseiller un peu honnête n'aurait-il pas pu voir que l'utilisation de l'article L47-1 de la loi qui est faite pour une procédure accélérée pour le budget de la sécurité sociale ne pouvait pas être appliquée dans cette procédure accélérée, ne serait-ce que parce que cette loi ne concerne pas que les assujettis à la sécurité sociale. Elle concerne aussi les non-assujettis, les régimes spéciaux et autres, et les régimes particuliers. Donc l'utilisation de cette loi en procédure accélérée au motif qu'il faudrait aller vite pour voter le budget de la Sécu, ça ne tient pas, puisque ça déborde largement les discussions du budget, en l'occurrence pour 2024, du budget de la Sécu. À noter toutefois, d'ailleurs, en parlant de régimes spéciaux, faut quand même le rappeler, tant mieux pour eux que certains ne sont pas attaqués. Il s'agit de celui de l'Opéra de Paris, donc on imagine bien qu'on peut difficilement danser jusqu'à 64 ans. Il s'agit de celui de la Comédie Française. Il s'agit de celui des marins-pêcheurs, un métier particulièrement usant et dangereux. Il y a beaucoup de morts chez les marins-pêcheurs. Il s'agit ensuite du régime des avocats, là on comprend moins, et celui des professions libérales. Pour ces deux derniers, comment comprendre l'exception, finalement, c'est-à-dire le maintien du départ à 62 ans, autrement que par des considérations politiciennes, sauf si on m'explique à moi que quand on est avocat, c'est un métier particulièrement pénible, plus que de travailler à la chaîne chez Renault. Voilà, donc quelques originalités dans le domaine. Il y a certes de bonnes raisons, je pense aux marins-pêcheurs ou aux danseurs de l'Opéra de Paris. Pour le reste, ça devient particulièrement curieux. En matière de curiosité, pour faire passer la pilule du maintien des départs anticipés chez les militaires, les gendarmes et les policiers, le gouvernement a gonflé en quelque sorte ces exceptions en ajoutant les douaniers, en ajoutant les pompiers et en ajoutant les infirmiers et aides-soignants de la fonction publique, pas les autres, avec la création d'une catégorie active et une autre catégorie appelée superactive. Ça existait chez les militaires, ce principe, mais ça a été étendu à quelques professions. Le départ, avec tout de même un accroissement du nombre de trimestres exigés, ça va l'être, passe de 52 ans aujourd'hui à 54 ans pour la catégorie superactive, et de 57 ans aujourd'hui à 59 ans pour la catégorie active. Donc là, en fin de compte, c'est un peu en trompe-l'œil, mais il y a quelques catégories de travailleurs qui sont relativement épargnées par rapport à la loi générale. Mais tout de même, ce n'est pas exact, tout à fait exact, il n'y a pas de comparaison exacte, puisque pour les militaires, il y aura un maintien d'une différenciation dans le calcul des trimestres exigibles pour le niveau de la pension. Donc ce que je viens de dire, c'est que par exemple, entre les pompiers et les militaires, il restera un décalage plus favorable en direction des militaires, et quand je dis militaires, en incluant les gendarmes. Alors tout est expliqué sur le site Vie publique du gouvernement, sur Internet. Vous pouvez trouver toutes ces informations. Enfin, tout ou presque, puisque Internet oublie de parler, le site officiel, du maintien de la retraite à 62 ans pour les sénateurs, lesquels ont voté majoritairement la retraite à 64 ans. Comprenne qui pourra, enfin, pour ma part, je crois que j'ai compris. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'état des lieux et le Conseil constitutionnel, à savoir que ce que demandent aujourd'hui nombre de mécontents, ils demandent une nouvelle discussion de la loi au Parlement, car justement, il y a un article, l'article 10, qui prévoit cette possibilité d'en rediscuter. Alors c'est une voix, c'est certainement pas la seule, mais je voulais la citer. Eh bien, sur ces informations, je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
C'est le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.